À propos de week-end, c'était l'année dernière, notre week-end de rentrée, en septembre dernier, avait eu pour thème « Préparer le chemin du Seigneur » au château de Saint-Albin. L'idée, c'était que Dieu règne sur sa création, Dieu a un plan, un projet, et souvent, Dieu passe par ses serviteurs pour mettre son plan en action, pour manifester sa grâce et sa puissance. En règle générale, Dieu passe par ceux qui lui appartiennent. Ce que donc nous, chrétiens de cette Église, devons donc chercher à faire, c'est à préparer le chemin du Seigneur, c'est-à-dire à rentrer dans le cadre de sa volonté, à chercher à accomplir toute sa volonté, et bien sûr à le faire à la manière de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu peut pleinement agir en nous, mais également que Dieu peut agir autour de nous, que Dieu peut agir à travers nous. Et le premier dimanche de chaque mois, nous avons abordé un thème justement destiné à nous permettre de préparer ce chemin du Seigneur. Voilà, tout d'abord, nous devons être conscients que nous devons être et faire des disciples, que pour cela nous devons être fondés pleinement sur la parole de Dieu, qui est notre guide, qui nous révèle à la fois qui est Dieu, mais également quelle est sa volonté pour nous et pour notre entourage. Qu'il nous faut annoncer l'Évangile, et d'ailleurs nous avons décidé au cours de cette année donc de nous lancer dans cette annonce de l'Évangile au travers du parcours Alpha. Et puis, eh bien, si le Seigneur se sert de notre annonce de l'Évangile pour toucher les cœurs, alors en tant qu'Église, il va nous falloir accueillir ce que le Seigneur va nous envoyer. Accueillir ceux qui sont peut-être encore faibles dans la foi, qui se questionnent encore, qui ne savent pas forcément encore très bien où ils en sont, ni qui est Dieu. Nous allons devoir nous supporter les uns les autres. Supporter dans le sens où, eh bien, voilà, il y aura peut-être des gens nouveaux qui vont chambouler un petit peu nos habitudes, notre manière de faire, mais aussi où nous allons devoir nous supporter les uns les autres dans le sens de nous soutenir. Nous avons à veiller les uns sur les autres, et tout cela afin de grandir à la ressemblance de Christ. Eh bien, le message de ce matin va clôturer cette série de 10 prédications sur « Préparer le chemin du Seigneur ». Et il aborde la question des dons que le Seigneur nous a accordés. Parce qu'à chacun de nous, le Seigneur a accordé au moins un don. À chacun de ses enfants, Dieu a accordé une capacité particulière, et cela dans un but précis, que nous mettions ce don au service des autres, en particulier dans l'Église. C'est ce qui est écrit au centre du passage que nous allons bientôt lire ensemble. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Voilà, le Seigneur connaît nos besoins et le Seigneur prend soin de nous. Et comment fait-il cela? En accordant à chacun de ses enfants un don. Un don que nous devons mettre au service des autres, là où ce don sera utile, là où il sera reconnu, apprécié et encouragé, et là où il portera le plus de fruits. Parce qu'un don a besoin d'un cadre favorable pour être reconnu par les autres, pour être apprécié et pour porter du fruit. Et avant d'ouvrir la Bible ensemble, je vous invite à regarder un petit film. C'est un film qui a été fait en caméra cachée dans une entrée de métro à Washington. Alors, à gauche de l'écran, vous verrez et vous entendrez, il y a un violoniste. Concentrez-vous, regardez plus particulièrement l'attitude des gens et les images seront passées en accéléré. Alors, ce violoniste a joué pendant 45 minutes. Environ 1000 personnes sont passées devant lui. Une vingtaine de ces personnes ont mis une pièce. Et seulement 7 personnes se sont arrêtées, dont une est restée jusqu'à la fin. Et personne ne l'a applaudi. Alors, ça, c'est le lot commun de la plupart des gens qui jouent dans le métro. Mais savez-vous qui était cet homme? Il s'agissait de Joshua Bell. C'est un des meilleurs violonistes au monde. Et ce jour-là, il a joué 3 des morceaux les plus difficiles jamais composés pour le violon. Il a joué sur un des meilleurs violons au monde. Le violon, c'est le sien propre, qu'il a payé plus de 3 millions de dollars. 2 jours avant cela, cet homme avait joué à guichet fermé dans l'immense théâtre de Boston où le prix des places avoisinait les 100 dollars. Et là, son art avait été reconnu, apprécié. Mais ce jour-là, dans le métro, presque personne n'a profité de son immense talent. Parce que son nom n'a pas été utilisé au bon endroit, ni au bénéfice des bonnes personnes. Son nom n'a pas été reconnu ni apprécié. À chacun de nous, Dieu a accordé au moins un don. Eh bien, l'Église est l'endroit par excellence où chacun de nous peut mettre au service des autres le don qu'il a reçu du Seigneur. Et je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles à la première lettre de Pierre au chapitre 4. Donc, le texte vous sera également projeté. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en emprunter comme celle-ci. Et c'est même à la page 801, voilà, pour faire gagner du temps. Première lettre de Pierre au chapitre 4. Et je lirai les versets 7 à 11. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors, le verset 10 est au centre de notre passage. Comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Et de ce verset, nous pouvons retenir 3 choses qui concernent le ou les dons que le Seigneur nous a accordés. Premièrement, chacun a reçu au moins un don. Mettez chacun, pas mettez certains d'entre vous, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Personne ne peut dire « Non, moi je n'ai rien reçu. Le Seigneur ne m'a pas donné de nom, de don. » À chacun de ses enfants, le Seigneur accorde au moins un don. Second point qu'on peut relever, c'est que ce don n'est pas destiné à nous-mêmes, mais aux autres. Mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Voilà, par l'intermédiaire de notre don, le Seigneur veut prendre soin de son Église. Et il veut que notre don contribue à soutenir et à faire grandir nos frères et sœurs. Troisième chose, c'est que le Seigneur ne nous demande pas de laisser dormir ce don, mais au contraire, de l'utiliser comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu. Mettez chacun en service des autres le don que vous avez reçu. Voilà, le Seigneur nous a confié un don, mais ce don ne nous appartient pas. Nous n'en sommes pas les propriétaires, mais seulement les intendants. Et le Seigneur nous demande de ne pas conserver ce don pour nous, ni de le faire dormir, mais d'en faire un bon usage en mettant ce don au service des autres. Alors l'essentiel est là, dans ce verset 10. Alors au départ, j'étais tenté de prendre uniquement ce verset. Parce que j'aime pas bien prendre un verset, parce que bon, on peut toujours l'isoler de son contexte. Mais à ma première lecture, j'avais plutôt l'impression que dans ce passage, Pierre, il parle un peu de tout. On a l'impression qu'il passe d'un sujet à l'autre. Puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit, qui a présidé la rédaction de ce texte, pourquoi a-t-il voulu qu'il en soit ainsi? Et puis en regardant un peu mieux ce passage, je me suis rendu compte en fait que ce passage parlait de différents aspects de la vie chrétienne. Et l'exercice de notre don est un des aspects seulement de notre marche avec Jésus. Parce que l'utilisation du don que Dieu nous a accordé ne peut se faire qu'en relation avec le reste de notre vie. C'est un tout. On marche avec le Seigneur. Et notre marche avec le Seigneur implique différentes choses. Alors je me suis dit que pour ma prédication, il fallait faire comme l'avait voulu le Saint-Esprit en conservant la dynamique et la construction de ce texte où l'exercice du don que l'on a reçu du Seigneur n'est pas isolé, mais où il est mis en relation avec d'autres aspects de notre vie avec le Seigneur. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Verset 7. La fin de toute chose est proche. Alors, dans le Nouveau Testament, nous sommes exhortés à ne pas différer notre engagement à suivre Christ, mais à vivre comme si Jésus revenait demain. Parce que c'est peut-être le cas. On ne sait pas quand Jésus va revenir. Il ne faut pas différer, attendre de suivre Jésus. Eh bien, nous ne devons pas repousser sans cesse, à plus tard, la recherche, ni même l'utilisation du don que nous avons reçu du Seigneur. Parce que la fin de toute chose est proche. Et si jamais le Seigneur revenait demain, que penserait-il de la manière dont nous avons utilisé le don qu'il nous a confié. Alors, attention, il existe de bonnes raisons pour lesquelles nous pouvons être empêchés d'exercer, comme nous le voudrions, le don que le Seigneur nous a confié. Et je pense en particulier aux charges et engagements que nous avons auprès de ceux que le Seigneur nous a confiés. Nos enfants, nos parents, des amis, et que ces gens ont peut-être besoin de notre aide, eh bien ce que le Seigneur attend dans ces cas-là de nous, c'est que nous prenions soin de ces personnes, même si cela n'est pas vraiment notre don, et même si cela se fait au détriment du don qui nous a été confié. Nous avons des priorités en toute chose, nous devons être fidèles. Il existe de bonnes raisons, mais il existe également de mauvaises raisons de ne pas mettre au service des autres le don que nous avons reçu du Seigneur. Et c'est en particulier le cas lorsque nous faisons un choix de vie où nos passions et plaisirs faciles prennent le dessus et se font au détriment de notre service pour Dieu. Y a-t-il des choses futiles de notre vie dont nous devrions nous débarrasser parce qu'elle nous empêche de mettre le don que nous avons reçu du Seigneur au service des autres. Soyons sages dans notre manière de gérer notre vie. C'est ce qui est écrit dans la suite du verset 7. Soyez donc sages et sobres. Alors la sobriété dont il est question ici ne concerne pas seulement la boisson, mais la sobriété dans tout ce que l'on fait. Nous devons faire preuve de sagesse dans la manière dont nous vivons. Et c'est pour cela d'ailleurs, vous avez peut-être entre les mains d'autres traductions que celle-ci, où il est écrit par exemple qu'il nous faut mener une vie équilibrée, ou être raisonnable, être pondéré dans ce que nous faisons. Parce que pour être en mesure de mettre au service des autres le don que nous avons reçu, nous avons besoin de temps et nous avons également besoin d'avoir la tête claire, ce qui va nous permettre de prier le Seigneur. Soyez donc sages et sobres afin de vous livrer à la prière. Parce qu'avoir reçu un don du Seigneur ne nous dispense pas de prier. Bien au contraire, même Jésus a pris le temps de prier. Et notre prière doit toujours précéder l'utilisation de notre don. Nous devons prier pour que Dieu nous aide à discerner le don qu'il nous a donné. Mais nous devons également prier pour que Dieu nous aide à savoir mais comment et quand utiliser ce don. Et nous devons également prier pour que Dieu agisse. Parce que le don en lui-même n'est pas une puissance magique. Vous savez, des fois dans les films, on voit ça. On dit une phrase, il se passe quelque chose de magique. Un don n'est jamais cela. Un don n'est pas une puissance qui agirait toute seule. Un don, c'est une grâce que le Seigneur nous fait d'intervenir au travers de quelque chose de particulier que nous accomplissons pour sa gloire. Et Dieu n'intervient jamais de manière obligatoire ni automatique parce que Dieu est un Dieu qui est libre. Et c'est pour cela que même dans l'exercice du don que nous avons reçu, nous devons prier, prier et prier. Même un don flagrant ne nous rend jamais autonomes dans notre service pour Dieu. Pour mettre au service des autres le don que nous avons reçu, nous devons prier, c'est important, mais il y a une chose qui l'est tout autant, c'est l'amour. Verset 8, avant tout, en premier lieu, en premier, avant tout, ayez un amour ardent les uns pour les autres. Et l'amour dont il est question ici est un amour vrai fort. Ayez un amour ardent, un amour qui se manifeste, un amour qui est mis en action. Si nous voulons que les dons puissent s'exercer et porter du fruit dans notre Église, l'amour doit être réciproque entre nous. Ayez avant tout un amour ardent les uns pour les autres. Celui qui exerce son don doit aimer ceux qui vont en bénéficier, mais également ceux qui vont en bénéficier doivent être pleins d'amour envers celui qui exerce son don. C'est important que l'amour soit réciproque dans l'exercice des dons, parce que la suite du verset 8 nous dit « L'amour couvrira une foule de péchés ». Alors, il n'est pas du tout question ici d'imaginer que l'amour permet d'effacer notre péché devant Dieu, ni que l'amour permet d'obtenir de Dieu le pardon de nos péchés. Il n'y a que le sacrifice de Jésus qui permet d'obtenir le pardon des péchés. Et je trouve un peu dommage que les traductions de la Bible du Semeur et de la Français courant introduisent ici le mot « pardon », alors qu'en fait, ce mot ne se trouve pas dans le texte grec. Ce qui est dit dans ce passage, c'est que l'amour réciproque peut couvrir ou recouvrir, passer par-dessus les divers péchés que nous pouvons commettre les uns envers les autres. Si nous voulons mettre au service des autres le don que nous avons reçu, il nous faudra aimer les autres afin d'être en mesure de passer par-dessus leurs péchés. Si c'est seulement au profit de quelques-uns que nous sommes prêts à mettre notre don à leur service, eh bien, on se retrouve en dehors de la volonté de Dieu. Et dans ces cas-là, avant d'exercer notre don, seulement au profit de quelques-uns, il nous faut commencer par prier, c'est ce que nous avons vu plus haut. Prier. Prier pour que Dieu nous donne un cœur aimant, mais aussi prier pour que Dieu nous montre comment utiliser ce don, même en faveur de ceux qui ont péché contre nous. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous soyons de bons intendants du don qu'il nous a confié, et c'est que nous mettions ce don au service des autres. Nous avons également besoin de nous aimer les uns les autres si nous voulons que dans l'Église, chacun puisse mettre son don au service des autres. Parce que la très grande majorité des dons que le Seigneur accorde, eh bien, va demander du temps avant de pouvoir se manifester pleinement dans la vie d'une personne. Cela va demander du temps, du travail et des expériences pratiques afin que le don se développe. Et cela va également demander du temps pour que cette personne qui a peut-être reçu un don manifeste, eh bien, puisse grandir en maturité et ressembler de plus en plus à Jésus. Et cela signifie que même dans l'exercice de son don, eh bien, cette personne va commettre, à nos yeux en tout cas, des erreurs et des maladresses. Et doit-on disqualifier quelqu'un qui n'exerce pas son don de manière parfaite, et en plus, voilà, dès le début? Nous devons accorder un droit à l'erreur. Si nous voulons que chacun ose exercer son don dans l'Église, il nous faudra aimer véritablement afin d'être en mesure de passer par-dessus ce qui ne va pas à nos yeux. Ayez un amour ardent les uns pour les autres, car l'amour couvrira une foule de péchés. Pour que le Seigneur puisse prendre soin de nous, grâce aux divers dons qu'il accorde à chacun, il nous faudra faire preuve d'amour réciproque dans l'Église. Mais dans l'Église ne signifie pas que nous devons limiter l'exercice de nos dons aux réunions que nous faisons dans ce bâtiment. Verset 9, « Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmurer. » Alors, nous pourrions penser que ce passage nous exhorte à accueillir chez nous les chrétiens de passage, comme c'est recommandé par ailleurs. Mais tout comme l'amour, l'hospitalité dont il est question ici est une hospitalité réciproque. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Il n'est donc pas question ici d'accueillir des gens qui se trouvent loin de chez elles, des personnes qui seraient loin de chez elles, même si c'est ce que Dieu nous demande également de faire. Mais il s'agit ici de prolonger les liens qui nous unissent jusque dans notre propre foyer. Parce que notre vie avec Christ, notre communion fraternelle, ne se limite pas à ce que nous vivons ici, dans ce bâtiment. Ça, c'est vrai que la partie visible de l'iceberg. Eh bien, de même, l'exercice de nos dons n'est pas limité au dimanche, à la réunion de semaine ou à ce bâtiment, parce que l'Église n'est pas un bâtiment, c'est le corps de Christ, une communauté de personnes qui appartiennent à Jésus-Christ. Ne limitons pas notre vie avec le Seigneur à ce lieu, mais allons à la rencontre de nos frères et sœurs, accueillons-les dans notre vie et cherchons à mieux les connaître afin de savoir comment nous pourrions mettre à leur service le don que le Seigneur nous a confié. Il y a diverses occasions, divers lieux pour mettre notre don au service des autres, et il y a également divers dons. Le verset 11 met en avant deux grandes familles de dons. Alors, il y a les dons liés à la proclamation de la parole de Dieu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu, voilà ce que nous maintenant, quand on met des étiquettes, on peut dire que c'est l'enseignement, la prédication, l'annonce de l'évangile, des paroles d'encouragement. Et puis, il y a les dons liés au service. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique. Voilà, des dons d'organisation, de gestion, la musique, et l'aide pratique sous toutes ses formes. Et là, il y a des centaines de possibilités de services, de dons. Je parle même plutôt de dons, parce que des fois, on peut faire un service même si ce n'est pas notre don. Est-ce que des gens ont reçu le don du ménage? Je ne suis pas sûr. Mais par contre, c'est un service. Quel que soit le type de don, il y a un point commun dans la manière dont notre don doit s'exercer. Nous devons impérativement veiller à demeurer dans la dépendance de Dieu. Parce que lorsque l'on a un don, on se sent plutôt à l'aise. C'est un point fort pour nous. Et souvent tellement à l'aise que nous avons tendance à compter sur notre don, c'est-à-dire sur nos propres capacités. Eh bien non, ce serait une erreur. L'utilisation de notre don doit au contraire nous pousser à dépendre encore plus de Dieu. Celui qui est à l'aise pour parler doit veiller non pas à proclamer ce qu'il a en tête, mais notre passage nous dit à ne proclamer, voilà, à ne proclamer que la parole de Dieu. Sa bouche doit se faire la bouche du Seigneur, et pas ses propres idées, pas ses propres convictions. Celui qui est à l'aise pour servir, celui qui est à l'aise pour faire des choses pratiques, eh bien lui, il doit veiller à ne pas compter sur ses propres forces, mais il doit s'appuyer sur la force que le Seigneur lui a accordée pour accomplir sa tâche. Nous devons apprendre à dépendre de Dieu dans l'exercice de nos dons. Et pourquoi cela? Parce que le don que nous avons reçu de Dieu est une opportunité que le Seigneur nous offre pour lui rendre gloire. Le Seigneur nous a accordé un don et nous demande de l'exercer en comptant sur lui afin que, verset 11, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de nous pour accomplir son plan. Dieu n'a pas besoin de nos capacités. Au contraire, c'est même de lui que nous recevons un don. Et ce don est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde pour le glorifier. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde de voir et de manifester sa gloire. L'Église n'est pas forcément le seul lieu, mais c'est le lieu par excellence pour exercer notre don. Ou en tout cas, ça devrait l'être. Déjà parce que c'est par ce moyen-là, par le moyen des dons que le Seigneur accorde aux uns ou aux autres, c'est par ce moyen-là que le Seigneur prend soin de son Église et la fait grandir. Et également, l'Église devrait être le lieu par excellence où exercer nos dons, parce que ça devrait être ici que règne en particulier l'amour. L'amour dont chacun a besoin pour trouver sa place, l'amour dont chacun a besoin pour exercer ses dons, pour faire des erreurs, l'amour dont chacun a besoin pour recevoir également ce que les autres ont à lui apporter. Alors, comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, toutes les bonnes choses viennent de toi et sont des cadeaux que tu nous offres. Nous voulons te remercier pour ta grâce par laquelle nous sommes sauvés, ta grâce qui nous permet de nous approcher de toi. Mais nous voulons également te remercier pour les dons que tu accordes à chacun d'entre nous, parce que ces dons sont également une grâce. Seigneur, tu n'as pas besoin de nous. Tu es très clair dans ta parole sur ce point. Tu n'as pas besoin de nous. Mais en nous accordant un don, tu nous fais la grâce de pouvoir, Seigneur, manifester ta gloire. Tu nous fais la grâce de te voir agir en nous, au travers de nous, autour de nous. Eh bien, Seigneur, donne-nous de pouvoir discerner notre don. Donne-nous également le courage, l'opportunité de pouvoir le mettre au service des autres. Et donne-nous, Seigneur, cet amour qui nous permet les uns les autres de pouvoir nous encourager mutuellement dans l'exercice de nos dons, afin que, Seigneur, ce que tu es parmi nous puisse resplendir en ce lieu, dans cette Église. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour tes dons. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour tes soins paternels. Amen.